C'est maintenant le moment de retrouver la directrice des programmes chez Vélo de Québec, Magali Bebron. Bonjour Magali.
Bonjour David.
Alors cette semaine, tu voulais qu'on aborde une question bien particulière dans ta chronique, c'est celle de la sécurité des piétons et surtout comment agir pour éviter des décès comme celui de la petite Maria.
C'est ça, on a tous été pas mal ébranlés hein, la semaine dernière par le décès de la petite Maria, une fillette de 7 ans qui était arrivée récemment d'Ukraine et qui a été happée par le conducteur d'un SUV qui a ensuite pris la fuite, ce qui est encore plus choquant. Alors que je parlais dans ma dernière chronique de l'état de santé des enfants hein, qui se détériorent par manque d'activité physique et que j'insistais sur l'importance que nos jeunes marchent et pédalent davantage, par exemple vers l'école, quasiment au même moment, on avait une cruelle illustration de pourquoi plusieurs parents refusent de laisser leurs enfants marcher de façon autonome. Donc on va tout de suite clarifier une chose hein, au sujet du choix de la famille de la petite Maria. Comme l'a très bien rappelé la directrice générale de Piétons Québec, la maman de cette fillette, elle avait pris la décision la plus saine qui soit de laisser marcher ses trois enfants vers l'école. Elle avait décidé de ne pas ajouter de trafic autour de l'école. Elle contribuait à apaiser la zone scolaire fréquentée par ses enfants tout en leur permettant de se dégourdir les jambes et d'arriver à l'école oxygénée et plus réceptive pour leurs apprentissages. Par contre, ce qui est arrivé à sa fille, c'est la conséquence de choix de société, des choix collectifs que nous avons faits au sujet de nos villes, nos milieux de vie, nos systèmes de transport. On a une approche de sécurité routière à Montréal qui s'appelle Vision Zéro pour zéro décès et blessés graves et qui est inspirée de la Suède. Et ce que cette approche met de l'avant, c'est que la responsabilité des collisions routières, elle ne s'arrête pas au comportement des usagers, mais elle s'étend et elle se partage avec les concepteurs de nos systèmes. Alors aujourd'hui, c'est vraiment ces aspects systémiques dont je voudrais parler. Je vais y aller en trois grandes catégories. 1, le volume de circulation. 2, la vitesse de la circulation. Et 3, le type de véhicule.
OK.
Le volume de circulation, c'est le premier facteur absolument déterminant en sécurité routière. C'est bien simple, plus il y a de véhicules qui circulent, plus il y a d'artères de transit et plus le nombre de collisions est élevé. La santé publique de Montréal a établi que dans les secteurs pauvres, il y a 2,4 fois plus de véhicules et 3 fois plus d'artères que dans les secteurs les plus riches. Quand même. Et ça, les habitants de Centre-Sud, où a été happée Maria, s'époumonnent depuis des semaines et des mois pour le dénoncer, pour dire que la circulation est devenue infernale dans leur quartier, en particulier tout récemment à cause des impacts des travaux dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. On le sait, un bon nombre d'automobilistes de la Rive-Sud se sont rabattus vers le pont Jacques-Cartier qui débouche où ? En plein quartier Centre-Sud. Et comme souvent, lorsqu'il y a trop de congestion, que font les conducteurs, guidés de plus en plus par leurs applications de navigation comme Waze, ils prennent des raccourcis, entre guillemets, pour éviter les artères congestionnées, en passant par des petites rues locales comme la rue de Rouen, où a été happée la fillette. Même des quartiers plus privilégiés, comme le plateau Mont-Royal, ont été aux prises avec des problèmes similaires de circulation de transit sur leur réseau local. Et on se souvient tous des mesures musclées qu'a pris l'administration du maire Luc Ferrandez pour s'y attaquer à grands coups de sens unique et de rue tête bêche. À l'époque, ça a provoqué de la controverse jusqu'à Gaspé, mais aujourd'hui, c'est plus un gros mot de dire qu'on va plateauiser d'autres quartiers de Montréal et c'est plus toxique de se réclamer de l'héritage de Luc Ferrandez comme la mairesse Plante l'a fait la semaine dernière.
Non, parce qu'on a vu qu'il y avait des résultats. Donc, de ce que je comprends, de ce que tu viens de nous dire, la circulation, c'est le premier facteur, là, comme tu l'avais exprimé. Puis, tu disais que le deuxième, c'était la vitesse.
En effet, l'autre facteur déterminant en sécurité routière, c'est la vitesse de la circulation. Il y a des chiffres très clairs qui peuvent expliquer pourquoi on a vu énormément de quartiers résidentiels abaisser leurs limites de 50 à 30 km/h dans les dernières années. C'est qu'en tant que piéton, quand on se fait frapper par un véhicule qui roule à 50 km/h, on a seulement 25% de chances de survivre à l'impact.
Avec un quart de chance de survie.
C'est ça. Si on baisse cette vitesse à 30 km/h, on vient d'augmenter nos chances de survie à 90%.
Ce qui est quand même assez fulgurant là, comme bond de différence.
C'est ça. Et ça, bon, c'est pour les piétons en général, puis je ne suis même pas en train de parler de la vulnérabilité supplémentaire des jeunes enfants comme la petite Maria. Alors, c'est majeur comme impact, hein, sans vouloir faire de jeu de mots. Et malheureusement, on sait bien que changer un simple panneau, ça ne suffit pas à provoquer un changement dans les comportements des conducteurs. On a beaucoup cité la semaine dernière en réponse à une déclaration pour le moins étonnante de notre Premier ministre, M. Legault, des observations faites par CAA Québec. Ces observations dans les zones scolaires ont montré que 96% des automobilistes montréalais dépassent les limites de vitesse permises dans les zones scolaires. 96%. Donc, si on veut effectivement baisser les vitesses pratiquées, on doit accompagner les panneaux de limite de vitesse par des mesures d'apaisement de la circulation. Là aussi, le plateau Mont-Royal a été un précurseur, ce qui a beaucoup polarisé, mais ces stratégies sont appuyées par la littérature scientifique qui prouve l'efficacité de ces mesures-là. Au-delà des dos d'âne, hein, qui sont bien connus, on a aussi implanté énormément de saillies trottoirs, et ces saillies, elles ont plusieurs effets bénéfiques. De un, elles raccourcissent la traversée pour les piétons, donc ils sont exposés moins longtemps. Elles dégagent visuellement les intersections et permettent aux conducteurs et aux piétons de se voir, ce qui est quand même essentiel. Et elles obligent aussi les automobilistes à ralentir davantage avant de faire leur virage. Sur certaines rues dans le plateau, on a même alterné le stationnement auto pour briser les lignes droites dans les rues qui incitent à la vitesse et obliger la circulation à zigzaguer et donc à ralentir.
Ce qui n'est pas fou du tout là, comme approche.
Exactement. On voit ces approches-là beaucoup en France, par exemple. Mais malheureusement, on le sait, hein, beaucoup de ces mesures-là, elles provoquent de la résistance. On a juste à penser aux saillies de trottoir. Elles empêchent physiquement les autos de se stationner dans les 5 mètres qui sont juste avant les intersections. Et les conducteurs québécois sont tous supposés le savoir, mais c'est de toute façon complètement interdit de se stationner à moins de 5 mètres d'une intersection ou d'un passage pour piétons, justement pour des raisons de visibilité. C'est dans le code de la sécurité routière. Mais malgré tout, il y a parfois encore de l'opposition à ce genre de mesures. Le dernier exemple en date, c'est un élu de l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce qui se serait tout récemment opposé à ce type d'intervention.
Okay.
Alors, il faut espérer que les événements de la semaine dernière vont peut-être l'inciter à revoir sa position. D'ailleurs, quelques jours à peine après le drame, l'arrondissement de Ville-Marie est intervenu à l'intersection où a eu lieu la collision en installant des bollards en plastique flexible qui ont essentiellement la même fonction qu'une saillie en dur, c'est-à-dire de rétrécir la voie de circulation à l'intersection pour forcer les automobilistes à ralentir. Alors voilà notre deuxième facteur, la vitesse de circulation.
Puis ça laisse justement le dernier facteur que tu as évoqué en début de chronique, soit le type de véhicule.
Oui, parce que c'est un aspect qui a été un peu passé sous silence, mais que Piéton Québec a également soulevé. Le véhicule conduit par l'automobiliste qui a fauché la petite, c'est un VUS, un véhicule utilitaire sport. Or, là aussi, les données sont maintenant largement disponibles pour l'affirmer sans équivoque. Ces véhicules-là sont beaucoup plus dangereux et meurtriers que des autos régulières. Ils sont souvent vendus pourtant en jouant sur le sentiment de sécurité, mais ça, c'est le sentiment de sécurité des occupants. Parce que pour les usagers en dehors du véhicule, le risque de mourir dans une collision avec un VUS est 2 à 3 fois plus élevé. Et la raison est assez simple, hein, c'est que c'est une question de physique. Ils sont plus lourds et ils sont plus hauts. Alors en cas de collision, bien sûr, la violence du choc est beaucoup plus forte. Et en plus, ils ont tendance à frapper le haut du corps, c'est-à-dire les organes vitaux et la tête, alors que les plus petites autos frappent plutôt les jambes. On se remet mieux d'une collision qui nous frappe dans les jambes.
Ça donne un peu plus de chance.
Exactement. Mais malheureusement, on le sait, ces véhicules-là sont de plus en plus populaires, ce qui fait que même si le bilan routier québécois s'améliore globalement, les gains sont assez inégaux et c'est les usagers vulnérables, en particulier les piétons, qui représentent une part toujours grandissante des victimes tuées ou blessées sur la route. J'en parlerai probablement un jour dans une chronique à part, mais sachant ce qu'on sait aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à s'expliquer pourquoi le gouvernement est toujours aussi réticent à appliquer un type de malus sur ces véhicules-là, dont les impacts environnementaux et en termes de sécurité routière sont pourtant vraiment problématiques et viennent à peu près annuler tous les autres gains qu'on fait, que ce soit en matière d'efficacité énergétique ou de bilan routier. Donc, en conclusion, il faut espérer que le décès tragique de la petite Maria nous amènera à réfléchir pour apporter les changements qui s'imposent pour atteindre l'objectif de zéro mort et blessé grave, non seulement à Montréal, mais vraiment à l'échelle de la province au complet.
Oui, puis on espère que ce genre d'événement, justement, ben, qu'on ne revivra plus de sitôt. Mayali Babron, je te remercie beaucoup pour ton passage aujourd'hui. J'en profite aussi pour te souhaiter de joyeux temps des fêtes.
Bonne fête, David.
Merci beaucoup.